150 ans, c'est l'âge de l'Université catholique de Lille. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cet anniversaire qui n'est pas banal, hein, Jean-Marc Assier, directeur général développement et stratégie de l'Université catholique de Lille, qu'on appelle aussi la Cato en général. Bonjour, bienvenue à Radio Campus Lille.
Oui, bonjour et très heureux de pouvoir vous rejoindre pour cette émission.
Voilà, c'est un plaisir, d'autant plus que l'histoire, on va dire la genèse de cette université n'est pas banale.
Non, effectivement, la genèse n'est pas banale, puisqu'en fait, c'est un projet qui a été porté à la fin du 19e siècle par les industriels lillois, et plus particulièrement par deux industriels, à savoir donc Philibert Vrault et son beau-frère Camille Ferron-Vrault. C'est des industriels dans le domaine du textile, des filateurs plus précisément, donc, qui produisaient un fil de grande qualité, le fil au chinois.
En fait, on peut peut-être expliquer les besoins de l'industrie locale, justement, et en quoi le service public de l'époque ne répondait pas à ces besoins.
Alors effectivement, nous étions donc dans le territoire lillois et en fait finalement sur tout le territoire du nord de la France, très dépourvu en termes d'enseignement supérieur, puisque en fait à la fin du XVIIIe siècle, en fait au moment de la Révolution, enfin plus précisément au moment de la Convention, l'ensemble des universités ont été dissoutes et ce n'est que progressivement dans le cadre du Premier Empire que le système universitaire a été remis en place, avec, dans le cadre du Premier Empire, un décret impérial qui a créé en fait une université impériale qui permettait, sur l'ensemble du territoire national, l'implantation de facultés et d'écoles. Donc ces facultés et ces écoles se sont implantées progressivement, mais en nombre très très faible, et notamment dans le nord de la France, puisqu'en fait nous n'avions à cette époque, enfin dans le courant du 19e siècle, que deux établissements, plus une école de médecine, enfin donc une faculté de lettres à Douai, qui dépendait donc de l'université de Louvain, l'université catholique de Louvain, un embryon, je vais dire, de faculté de sciences avec l'implantation du début de l'Institut Pasteur à Lille, dans les années 1860 à peu près. Et puis, donc il y avait donc sur le nord de la France, je pense, trois écoles de médecine, mais qui n'étaient pas des facultés de médecine, c'était des écoles en fait de praticiens de santé en quelque sorte. Donc une à Lille, une à Arras et une à Amiens.
Alors c'est vrai que la capitale des Flandres est un peu particulière parce qu'à l'époque, dans cette histoire-là, on ne savait pas trop s'il fallait lui faire confiance ou pas et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de décret proposant une université à Lille.
Alors effectivement, mais pour ce qui concerne le décret, pas précisément, puisqu'en fait, malheureusement, c'était la situation de la France entière. Et ce n'est que, je vais dire grosso modo, au moment de la guerre avec les Prussiens, que tout d'un coup, il y a eu une grande révélation, et que la pauvreté de la France, en termes de potentiel de formation dans le supérieur, et de formation des responsables, s'est révélé vraiment très très faible. Alors, la Troisième République, bien sûr, en a pris conscience, mais les décisions étaient longues à prendre. Et finalement, donc, suite à la guerre donc, avec les Prussiens, enfin un peu plus tardivement, donc en 1875, la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'auparavant, donc, il y avait un monopole d'État qui avait été instauré depuis l'Empire. Et donc, il y a eu cette loi sur la liberté de l'enseignement supérieur en 1875, loi sur laquelle se sont fondés donc, les industriels lillois, notamment, pour créer l'université catholique. Mais cette loi, en fait, a été promulguée justement sur la pression de ces industriels lillois qui, déjà depuis les années 1873-1874, faisaient pression donc, et exerçaient un lobby en fait, au niveau national pour pouvoir lancer une université. Et donc, il y a eu cette liberté d'enseignement supérieur donc, par cette loi de 1875, juillet 75. Et donc, tout de suite, l'Université catholique de Lille a été implantée. Et pour venir à votre question, donc, en ce qui concerne le territoire et les décrets de la République, en fait, ce n'est que très tardivement que la République a décidé de la remise en place d'université, puisque ce n'est que finalement qu'en 1898 qu'une loi donc, a permis effectivement l'implantation des universités sur le territoire national. Alors, très très vite, après cette loi de 1898, comme il y avait déjà finalement eu la création de l'université catholique à Lille à partir de 1875, l'université de Lille a été implantée très rapidement, parce que déjà en 1897, c'est-à-dire l'année suivante, l'université de Lille existait déjà en fait. Et on peut dire finalement que de ce point de vue, l'université catholique de Lille a permis une émulation qui a stimulé les responsables nationaux, donc au niveau du gouvernement, à envisager et à prendre les moyens pour implanter une université à Lille. Et depuis d'ailleurs, nous avons toujours cette émulation entre Université catholique et Université de Lille.
La émulation, un petit peu de concurrence aussi.
Voilà, un petit peu de concurrence effectivement, éventuellement, mais on va dire comme nous sommes sur un territoire quand même où le besoin de l'enseignement supérieur est grand, et par ailleurs, comme nous avons tant dans le public que chez nous, donc au niveau de l'Université catholique, des formations de qualité, nous attirons également des étudiants d'autres territoires. Et donc globalement, je pense que nous ne sommes pas en concurrence sur les parcours de formation, sur le recrutement, je veux dire. Par contre, effectivement, nous avons à notre niveau l'handicap de ne pas avoir un financement à la hauteur du coût des formations et donc la nécessité d'avoir des scolarités payantes. Et donc effectivement, il faut que les étudiants et les familles puissent faire l'effort de payer les scolarités pour venir dans les formations de l'Université catholique. Néanmoins, nous accueillons de l'ordre de 20 à 22% de boursiers CROUS, en fait, donc de boursiers français, en fait.
Ouais. Donc, il y a 150 ans, vous parliez de ces grandes familles d'industriels, j'imagine bourgeoises avec des moyens aussi, qui ont financé, et sans doute aussi ces familles plutôt catholiques d'une manière générale, c'est ce qui a donné un petit peu ce côté caractère propre.
Alors, effectivement, des familles, le projet était porté par des familles industrielles ou de grands bourgeois territoriaux, majoritairement. Catholiques, effectivement, mais sachant que Philibert Brault s'était converti quelques années auparavant, peut-être une dizaine d'années auparavant, j'ai plus précisément la date en tête. Donc, c'était en quelque sorte un nouveau catholique. Mais il a vraiment porté, avec son beau-frère Camille Ferron-Vaux, le projet. Et il a été effectivement, et bien d'autres projets d'ailleurs, sur le territoire lillois, donc nous pourrons peut-être y revenir. Et donc il a réussi, avec son beau-frère, à organiser des campagnes de collecte de fonds, et finalement rassembler ce que l'on appellerait aujourd'hui du mécénat, pour envisager de lancer l'université catholique.
Du mécénat d'entreprise. Alors on a parlé de ces chefs capitaines d'entreprise, etc. Par contre, il y avait aussi des ingénieurs qui ont joué un rôle très important dans le développement technologique. Et on a encore leur nom à Lille, à la Vieille Bourse.
Oui, effectivement. Donc, y a également eu des ingénieurs, des savants donc, qui ont joué un rôle important, qui sont venus donc, s'impliquer dans le développement de l'enseignement supérieur dans les Hauts-de-France. Voilà, je peux pas vraiment préciser davantage. C'est sur ce point-là, en fait.
Donc, qu'est-ce qui fait que vous utilisiez le nom université et pas faculté, ce qui est plutôt le cas des lieux de formation privée?
Alors, en fait, c'est toute une histoire. Donc, je disais tout à l'heure, donc suite à la Révolution et au moment de la Convention, les universités ont été supprimées en France. Donc, le Premier Empire a réinstauré en quelque sorte l'université, mais avec une université finalement impériale. Et ensuite, quand la République est arrivée, donc à la fin du Premier Empire, l'université impériale s'est en quelque sorte arrêtée. Et sur le territoire national, ce sont des facultés et des écoles qui se sont développées, qui étaient publiques, en fait, à ce moment-là. Et donc, au moment où la liberté d'enseignement supérieur a été donnée, donc en 1875, il était tout à fait possible, c'est prévu donc dans le cadre de la loi, de créer une université, on va dire, libre, en fait. Et c'est ce que les fondateurs ont fait. Alors la loi de 1880 est venue limiter cette possibilité de créer des universités privées, de l'enseignement libre. Alors néanmoins, l'Université catholique de Lille donc, continue aujourd'hui de s'appeler Université catholique de Lille, puisque, disons, comme elle a été créée avant la loi de 1880, il y a en quelque sorte cette marque, Université catholique de Lille, 1875. Qui permet aujourd'hui de faire perdurer l'utilisation du mot université. Voilà, et donc par rapport à votre question, en fait, c'était il y a un certain nombre d'établissements qui s'appellent facultés, vraisemblablement parce qu'ils ont poursuivi ce qui s'est fait dans le cadre du courant du 19e siècle, ou alors ce sont peut-être également des établissements qui ont été créés après la loi de 1880, et qui donc n'ont pas la possibilité d'utiliser le mot université.
C'est vrai qu'en Belgique, à Bruxelles, l'université libre, c'est l'université publique.
Alors voilà, c'est très particulier parce que la situation de la Belgique est très particulière. En fait, toutes les universités en Belgique, qu'elles soient publiques, relevant historiquement, on va dire, de la franc-maçonnerie ou catholique, reçoivent le même financement. Et donc, par exemple, l'Université catholique de Louvain est financée comme l'Université de Bruxelles. En Belgique, il n'y a pas de distinction en fonction de la nature statutaire de l'université pour ce qui concerne le financement.
Donc, est-ce qu'on peut dire globalement que beaucoup de vos étudiants sont issus de lycées catholiques ?
Alors, une proportion effectivement très grande. C'était davantage vrai avant APB. Donc ensuite, il y a eu APB, puis Parcoursup aujourd'hui, et le recrutement s'est beaucoup diversifié. Mais effectivement, auparavant, il y avait en quelque sorte une connaissance territoriale qui provoquait, qui permettait aussi, je veux dire, un recrutement en grande partie à partir du territoire et à partir des lycées catholiques du territoire. Aujourd'hui, je pense que nous sommes, j'allais dire, presque à 50-50%, mais disons que nous avons un peu plus de lycées catholiques, peut-être jusqu'à 55%. Mais enfin, disons que le recrutement est partagé aujourd'hui.
Et est-ce que donc la Cato accueille aussi des étudiants qui ne sont pas catholiques ?
Ah oui, bien sûr, oui. Donc l'université catholique est catholique sur la base de ses fondamentaux, sur la base des valeurs. Donc des valeurs donc, qui reposent sur l'Évangile, mais l'université, par ailleurs, est ouverte à tout un chacun. C'est le projet de l'Université catholique de Lille est d'être vraiment dans l'ouverture, d'être pleinement donc, dans l'intérêt général, au service de la République et de l'Europe, en complément de l'université publique.
Est-ce que le fait que vous soyez catholique, ça induit un fléchage dans les recherches, par exemple, et peut-être certaines zones où vous ne sentiriez pas dans le meilleur des conforts?
Alors, disons, y a forcément donc, un regard qui est porté sur les valeurs, en particulier sur l'Évangile, donc pour l'université catholique. Mais, on va dire, depuis Vatican I, à la fin du XIXe siècle, il n'y a pas de distinction, de séparation ou d'hégémonie, on va dire, entre foi et raison. C'est-à-dire que foi et raison ont été placées sur un même plan. Et de ce point de vue, d'ailleurs, l'Université catholique de Lille s'inscrit pleinement dans cette dimension-là, puisque sa devise, c'est « in fide ad scientiam », c'est-à-dire en fait la dimension de la foi et la dimension des sciences, avec en fait aucune exclusion ni de la science ni de la foi. Alors après donc au niveau de la recherche, la recherche scientifique porte vraiment sur tous les champs, avec une grande préoccupation humaniste et éthique. Et c'est vrai donc s'il s'agissait de porter des programmes de recherche dans des dimensions qui seraient considérées comme limites sur le plan éthique, il y aurait effectivement une interrogation sur la pertinence de lancer ce projet. Néanmoins, donc, nous fonctionnons, comme je le disais, donc avec une non-exclusion entre foi et raison. Et par ailleurs, les enseignants-chercheurs ont une liberté académique, comme dans tous les établissements, en fait.
Donc, 150 ans, il s'en est passé des choses hein, dans votre établissement, notamment un grand nombre aussi d'écoles qui sont liées à l'établissement.
Oui, effectivement, puisque en fait, à partir, l'Université catholique a d'abord commencé avec des facultés. Donc, tout d'abord, la faculté de droit, qui avait d'ailleurs en quelque sorte préexisté à la loi, puisque les cours de droit ont commencé rue Royale à Lille en 1874. Dès la création de l'université, donc en 1875, il y a eu l'ouverture de la faculté de droit, donc dans une dimension officielle, de la faculté de lettres et de la faculté de sciences. Il aurait dû y avoir également immédiatement l'ouverture de la faculté de médecine. Ça a été un tout petit peu plus complexe parce qu'il fallait trouver une base hospitalière qui soit suffisamment conséquente pour développer une faculté de médecine. Et donc, la faculté de médecine a été ouverte rapidement l'année suivante, en fait.
Parmi les écoles dans
J'oublie de répondre à votre question sur les écoles. Exactement. Effectivement, donc, et les écoles sont nées par bourgeonnement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, HEI est née donc, en 1885 à partir de la faculté des sciences. EDEC, donc école de management aujourd'hui, est née à partir d'HEI dès le début du XXe siècle, en 1900 ou 1902, et est devenue indépendante en 1951 ou 1952. Voilà, l'IESSEG est née à partir de la faculté de sciences économiques. L'ICEN, aujourd'hui dans le groupe Jonia, donc comme HEI et comme ISA, ISEN est née donc à partir de la faculté de sciences principalement. ISA également à partir de la faculté de sciences. Voilà, donc en fait, ISTC, donc l'école de management et de communication, est née à partir du service communication de l'ISEN. Donc voilà, les choses se sont faites par bourgeonnement en fait en quelque sorte. Et en 1976, donc nos prédécesseurs ont décidé donc de créer une fédération. On proposait en tout cas de créer une fédération, la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille, pour garder l'unité entre les établissements et constituer finalement ensemble l'université catholique.
Dans cet ensemble, il y a également un hôpital.
Alors effectivement, donc, pour ouvrir une faculté de médecine, il fallait avoir une base hospitalière. Et l'ouverture de la faculté de médecine était un projet vraiment très grand des fondateurs qui constataient la grande misère territoriale en termes de médecine. Et donc, il a fallu trouver une solution pour ouvrir la faculté de médecine. Et donc, la République avait construit à Lille l'hôpital qui avait été commencé d'ailleurs sous le Troisième Empire, c'est la raison de son premier nom, l'hôpital Sainte-Eugénie, Eugénie, le nom de l'impératrice. Cet hôpital est devenu ensuite l'hôpital de la Charité. Mais malheureusement, donc, du fait de la guerre en 1870, les moyens nationaux étaient limités. Et l'hôpital de la Charité était construit avec ses quatre pavillons, mais n'était pas du tout équipé. Et donc il y a un accord qui a été pris entre les porteurs du projet de l'Université catholique, en particulier un projet porté par Camille Ferrero, donc le beau-frère de Philippe Bervaux, pour proposer d'équiper l'hôpital public. Donc il a été possible donc, d'équiper deux pavillons sur les quatre pour lancer donc, une base hospitalière avec suffisamment de spécialités cliniques pour ouvrir une faculté de médecine. Et donc il y a un accord qui a été pris, il y a un accord qui a perduré très longtemps puisque je pense que la faculté de médecine et, donc, et l'hôpital de l'Université catholique ont quitté l'hôpital de la Charité dans le milieu du XXe siècle, pour ensuite créer les hôpitaux propres. Donc aujourd'hui, par exemple, l'hôpital Saint-Philibert, l'hôpital Saint-Vincent, l'hôpital Sainte-Marie à Cambrai, et donc une base hospitalo-universitaire qui est assez étendue aujourd'hui.
Donc la Cato est assez connue pour notamment le boulevard qu'elle occupe, boulevard Vauban. Hein.
Effectivement, donc la Cato, donc au moment de sa fondation, a été implanté au tout début, donc rue Royale à Lille, dans l'immeuble de Vambrochy, en fait, qui était l'ancienne préfecture qui venait d'être achetée par une congrégation religieuse. Et cette congrégation religieuse a loué au début les locaux pour lancer les premiers cours, notamment la faculté de droit. Ensuite, donc, il y a d'autres locaux qui ont été loués rue Royale, rue d'Angleterre également, pour lancer la faculté de médecine ou les autres facultés. Et dans un même temps, les industriels de promoteurs du projet ont acheté des terrains dans boulevard Vauban. Le boulevard venait d'être percé. C'était donc un ensemble en bordure de l'île avec des terrains dits marécageux, mais en tout cas des terrains très humides. Il a fallu donc assainir ces terrains et lancer un très grand projet. Et donc, les fondateurs ont voulu lancer un très beau projet. Donc, ils avaient réuni les moyens donc, par la souscription qu'ils avaient lancée pour lancer un très grand projet. Donc, ils ont fait appel à un premier architecte qui a fait une proposition magnifique, mais trop coûteuse. Et ils ont fait appel à un deuxième architecte qui a repris l'idée du projet, mais qui l'a rendu plus réalisable, notamment en utilisant les techniques modernes de construction, les techniques qui étaient déjà qui avaient commencé à être utilisées par les industriels, justement, de techniques de poteau-poutre. Donc, en fait, on a une structure immobilière qui est finalement une structure industrielle, mais en réalité, un immeuble magnifique de type néo-gothique, parce que donc, tout l'habillage de l'immeuble est néo-gothique, en fait.
Donc, quand on revient un peu au Lille ancien, moyenâgeux, hein, il y a l'hospice Comtesse, par exemple, qui est un lieu impressionnant. Est-ce que vous avez eu des relations avec, les autorités par rapport à ce lieu un jour ?
Non, pas de. Nous avons eu des conventions, pour, notamment sur le plan culturel, avec l'hospice Comtesse, mais disons pas de relation dans sa dimension hospice. Mais je pense que la dimension hospice au niveau de l'hospice Comtesse a dû être arrêtée, je pense, au début du XXe siècle, en fait. Un peu avant même. Ouais. Mais nous sommes effectivement en lien avec les différents musées de la ville de Lille. Dans la dimension culturelle, et nous avons donc, quand c'est possible, des conventions pour permettre aux étudiants de s'enrichir dans leur dimension de compétences culturelles.
Dans vos étudiants, j'imagine que leur nuit, ils les partagent avec l'ensemble des étudiants lillois dans certaines rues du centre-ville.
Alors oui, donc ça c'est à la fois une grande richesse et une grande difficulté, c'est-à-dire que on va dire, de très nombreuses villes en France aimeraient avoir une université comme l'Université de Lille et comme l'Université catholique. Il y a beaucoup de villes qui malheureusement n'ont pas cette chance-là. Mais dans un même temps, effectivement, donc, avoir cette chance, ça veut dire être en capacité d'accueillir des étudiants et des étudiants qui sont jeunes et qui font la fête. Et donc effectivement, il faut que nous trouvions à chaque fois des voies en lien avec les représentants de la ville de Lille, avec les représentants nationaux pour essayer de réguler au mieux ces fêtes et faire en sorte que ces fêtes ne créent pas de nuisances, ou en tout cas le moins possible pour la population. Mais d'un autre côté, voilà, il y a aussi la chance d'avoir une ville avec beaucoup de jeunesse.
Voilà, donc ces jeunes, j'imagine qu'ils ont des projets d'avenir. Est-ce que vous épaulez ces jeunes dans leur accès vers des carrières professionnelles ?
Alors oui, la jeunesse, c'est une des forces en quelque sorte de l'Université catholique de Lille, c'est des formations à caractère professionnel et une insertion professionnelle qui est très bonne et très, très accompagnée, avec donc l'existence dans les différents établissements d'un career center, donc pour aider à l'insertion professionnelle, aider également à la recherche de stage ou aider à la recherche d'alternance. Et on va dire, du fait de sa création, depuis l'origine, l'université a entretenu un lien important avec les entreprises. Et donc, il y a une forme de, on peut dire, de chance pour les étudiants qui sont à l'université catholique. En tout cas, pour ceux qui éventuellement n'ont pas le réseau, il y en a qui ont un grand réseau, bien sûr. Mais il y a un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas de réseau particulier. Mais ils peuvent effectivement, d'une certaine façon, bénéficier de ces relations entretenues avec les entreprises et des career centers pour avoir une insertion professionnelle qui, pour certains d'entre eux, est facilitée. Alors pas pour tous, parce qu'il y en a qui choisissent de faire une carrière internationale, qui choisissent de faire une carrière ailleurs en France. Donc souvent, ils se débrouillent par eux-mêmes. Mais il y a quand même un certain nombre de jeunes qui ont cette chance-là. Oui.
Est-ce que dans les études religieuses, vous avez des domaines de pointe, d'excellence, des choses un peu pertinente, on va dire, ou impertinente parfois.
Oui, certainement les deux. On va dire pertinente et impertinente, mais nous avons effectivement une faculté de théologie qui a été fondée juste également, on va dire dans la foulée de la faculté de médecine. Donc finalement, c'était pas la première faculté créée au niveau de l'université catholique, mais il était dès le début prévu d'avoir une faculté catholique. Alors dans cette faculté catholique, il y a des professeurs de théologie avec différentes spécialités. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les travaux de recherche sont globalement dans l'inspiration d'un catholicisme ouvert. Alors effectivement, avec beaucoup de travaux sur l'histoire des religions, par exemple, effectivement, différents parcours où les religions anciennes sont étudiées, le polythéisme, donc ensuite voilà l'apparition donc des religions monothéistes, l'arrivée du christianisme, le judaïsme ensuite, mais également l'ouverture à d'autres cultures et donc la possibilité donc de découvrir également d'autres approches spirituelles.
Est-ce qu'il y a un dialogue interreligieux intéressant sur l'île? Je pense aussi aux musulmans qui sont présents en nombre.
Alors voilà, nous essayons vraiment de favoriser et d'entretenir le dialogue interreligieux. Voilà, il faut que nous y travaillions encore et à notre niveau, mais également au niveau des responsables des autres religions. Mais disons que la volonté est vraiment là, d'être dans le dialogue et d'essayer de réfléchir ensemble à tout ce qui peut permettre donc d'être dans une société espérante qui permette de vivre en paix et donc de permettre à notre jeunesse d'envisager de vivre dans un monde en paix. C'est un grand travail aujourd'hui, en fait.
Un nouveau pas, pour vous, ça représente ou ça change quoi?
Alors, voilà, donc, comme dans toute organisation, il y a des successions donc, qui existent. Donc, c'est le cas donc, au niveau du Vatican. On va dire que l'Université catholique de Lille était vraiment dans la ligne du pape François et donc dans ses dimensions d'ouverture, etc. Donc là, il y a un nouveau pape, il faudra que nous le découvrions. Voilà, mais bon, il semble voilà, qu'il soit également très engagé sur un certain nombre de préoccupations aujourd'hui, donc, et notamment au regard de la paix. Et nous aurons certainement à travailler donc dans les différentes facultés, en particulier en faculté de théologie, sur ces réflexions autour de la paix.
Est-ce que le Vatican exerce une certaine tutelle sur les établissements catholiques en France?
Oui, alors en fait, de différentes façons. Donc d'une part, le président exécutif de la fédération, c'est finalement le président de l'université, qui par ailleurs, donc, étant élu à la présidence de l'université, est nommé et proposé au conseil d'administration de l'Institut catholique de Lille, c'est-à-dire qui regroupe l'Institut qui regroupe les facultés pour être nommé recteur. Donc c'est un président recteur. Et donc en tout cas, c'est les personnes qui se présentent pour être élues, enfin ceux qui sont candidates à l'élection, doivent avoir reçu le nihil obstat, c'est-à-dire le fait que le Vatican disent qu'ils ne voient pas d'opposition à la candidature de cette personne. Donc ce n'est pas un contrôle très serré, mais c'est voilà, nous n'y voyons pas d'inconvénient. C'est quand même une forme de contrôle. Par ailleurs, pour la faculté de théologie, de la même façon que nous avons donc sur les différentes formations, l'évaluation du HERS, c'est-à-dire du Haut Comité d'évaluation pour la recherche et l'enseignement supérieur, comme les universités publiques, pour la faculté de théologie, il y a en plus l'évaluation de l'AVPRO, qui est une structure un peu équivalente d'évaluation, qui dépend du Vatican, et qui effectivement vient auditer périodiquement, tous les 5 ans, la faculté de théologie. Et de la même façon que le fait, par exemple, le HURS, formule donc des recommandations pour essayer d'être plus performant, enfin plus... Les recommandations peuvent être dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'organisation. Voilà, c'est une évaluation, on va dire, qui est plutôt une évaluation à viser de construire un mieux, en fait.
Donc 150 ans, c'est un chiffre qui est considérable. Jean-Marc Assier, comment vous voyez l'avenir à partir de ce bilan peut-être que vous venez de faire et des perspectives d'avenir?
Alors, effectivement, 150 ans, c'est un grand anniversaire. Donc, il a été souhaité d'engager un certain nombre d'événements et de festivités pour célébrer cet anniversaire, et notamment pour célébrer et reconnaître tout le travail réalisé par nos prédécesseurs, donc depuis les fondateurs, toutes les personnes donc, qui ont travaillé au niveau de l'université. Mais il a été souhaité également que cet événement des 150 ans ne soit pas un événement uniquement à caractère rétrospectif, et que cet événement projette en fait l'université vers l'avenir. Et donc, cet événement donc, s'inscrit dans une programmation donc, qui non seulement célèbre le passé, mais qui également envisage l'avenir, et notamment autour du programme ECOPOS. Donc ECOPOS, c'est une biennale qui est organisée à l'Université catholique de Lille, qui permet donc d'envisager le futur. Et donc là, il y a tout un chantier qui a été lancé pour imaginer l'université 2100. Et donc il y a un travail qui est fait donc, par différentes personnes de la Terre et différentes personnes invitées pour faire ce voyage vers l'université 2100 et donc essayer d'imaginer l'université du futur. Alors il ne s'agit pas bien sûr aujourd'hui de décrire l'université 2100, nous n'en savons absolument rien. Mais disons en tout cas d'envisager cette perspective et de continuer à engager un chemin pour l'avenir, pour servir la jeunesse qui est présente aujourd'hui et qui arrive, servir le territoire et servir donc, on va dire, la République et l'Europe dans une perspective de paix et d'humanité.
Alors, j'imagine que toutes les formations universitaires commencent à s'intéresser, sinon se préoccuper de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous sentez mobilisé aussi sur ces sujets ?
Alors, nous sommes effectivement très mobilisés sur l'intelligence artificielle. C'est une donnée qui va certainement, enfin qui a déjà commencé à changer beaucoup les choses et qui va continuer à changer beaucoup de choses, donc dans le domaine de l'enseignement, mais également dans le domaine des différents métiers et d'une façon très générale. Et donc effectivement, nous sommes engagés dans différents programmes de recherche au niveau de l'intelligence artificielle. Nous avons notamment des travaux de recherche sur l'intelligence artificielle dans le champ de l'éducation, avec cette dimension prospective, des travaux sur l'intelligence artificielle et éthique, et puis dans le domaine davantage des sciences, à l'école numérique ou de l'ingénierie, il y a également donc, un certain nombre de travaux qui sont conduits à notre échelle qui, de ce point de vue-là, est modeste, mais néanmoins donc pour envisager également toutes les dimensions technologiques de l'intelligence artificielle.
Pour conclure, optimiste sur le monde ?
Oui, préoccupé bien sûr par des situations que nous connaissons tous et qui nous interrogent et qui d'ailleurs interroge aussi la jeunesse. Mais nous souhaitons essayer de voir donc un avenir possible, essayer donc de convaincre. Donc il faut travailler beaucoup pour instaurer un climat de paix et permettre à la jeunesse donc d'avoir des perspectives qui soient espérantes et ouvertes.
Mais merci Jean-Marc Assier et bon anniversaire.
Merci beaucoup. Très heureux d'être venu.
Radio Campus, il est 18h.